Imagerie.com.
Du bon le matin.
Sa chronique est tous les mardis. On va peut-être parler de Kotkaniemi. Qui est-il? D'où vient-il? Chroniqueur de hockey, très chevronné. C'est Bruno Gervais, le grand.
Alors, il est au bout du fil. Bruno, bon matin.
Hey, bon matin, la gang.
Hey, nous autres, on avait un projet là, de se mettre une ligne solide là, pour se parler. Là. C'est resté au beau point. Ouais. Tu avais un projet de venir à Québec. Je te dois un souper. Tous tes projets avec toi, tout est. On est proche du congédiement?
Ben non, mon Steph. Des fois, la patience, là, Steph, c'est une vertu. Puis c'est important à avoir et. Toute bonne chose, là, mais ça vaut la peine d'attendre. Fait qu'inquiète-toi pas, moi, on va l'avoir ce sujet-là, puis un bon matin, mais je vais être capable de respirer ton haleine du matin directement des studios.
Bon, ben parfait, tu vas voir que c'est pas si pire. Justement, tu parles de patience. On a eu une belle discussion à 6h30 à matin, Ray et moi. Bon, là, il y a eu les congédiements. Là, il y en a eu une vague, il y en a eu trois, là, mais on en a calculé 6 ou 7, soit autant à cause de certaines histoires en dehors et également des mauvaises performances. Le hockey, ça nous apparaît être le sport où, quand ça va pas, c'est le coach qui est éclairé. Dans la NFL, on voit à peu près jamais ça avant la fin de la saison. Au baseball, également, très rarement. Donc, pourquoi c'est cette mentalité-là que le club va mal, le coach dehors ou le DG dehors, comme dans le cas du Canadien?
Ben, dans ces cas-là, puis c'est sûr que comme organisation, on ne peut pas te rendre là, mais c'est le coup de fouette que ça va arriver quand tu as des joueurs qui sous-performent. Pourquoi la mentalité est comme ça, puis pas comme ça au football et au baseball? Faudrait s'asseoir et bien réfléchir là-dessus. Je voudrais de savoir pourquoi c'est si différent. T'sais, j'imagine qu'au football, t'as bien des stratégies qui sont derrière ça, mais quoi que t'as des spécialistes dans chacun des offensivement et défensivement qui gèrent ça. On a vu quelques-uns, mais au hockey, t'as cet effet-là de quand le message passe plus, quand tu veux avoir une espèce d'effet, un coup de fouette, rechanger, parce que quand tu l'engages l'entraîneur, c'est que tu crois à ses choses, tu crois à ses visions, sa façon de faire. Mais chaque entraîneur, va te le dire, sont engagés pour être mis à la porte un jour. Fait que tu sais que tu as une période de temps que tu peux faire ça. Il y en a qui sont capables de faire longtemps quand les succès vont suivre. Mais tu essaies d'aller chercher le meilleur de ton groupe. Puis il y a des moments où c'est toi qui vas écoper parce que c'est plus facile de changer un entraîneur puis d'avoir cette espèce d'effet-là que de changer 23 joueurs.
Mais est-ce que l'effet fonctionne vraiment si on perpétue ça avec le temps de congédier l'entraîneur? Puis on a relevé, encore là dans notre discussion de ce matin, Ray, 2009, les Pingouins changent de coach, gagnent la Coupe. 2016.
Les Blues récemment.
Les Blues de Saint-Louis. 2019. Comment on 2019-2018 les Blues, je vais me tromper là.
18 parce que ça fait 2 ans. Ben ouais. 19 peut-être parce que ça fait 2 ans que le Lightning gagne
en 2020.
Exact.
Ouais. En tout cas, donc eux changent d'entraîneur au cours de l'année, gagnent la Coupe Stanley l'année suivante. Puis là, tu sais, on est sur dans une plate d'un peu plus de 10 ans à peine.
Le Canadien est à la finale quand même.
Aussi en changeant d'entraîneur, c'est vrai, absolument. C'est un peu plus rough cette année par contre. Mais donc toi, tu vois ça comment? Est-ce que ça marche vraiment là, ce coup de barre-là?
Ben oui, ça peut marcher. Puis tu sais, ça, c'est des exemples concrets que tu as sortis qui ont fonctionné. Puis ça va marcher parce que c'est un gros contraste dans la personnalité puis dans le message que tu vas avoir. Tu sais, tu fais le tour sur les cas que tu viens de nommer. Puis tu sais, Michel Therrien, je pense que c'est un excellent entraîneur, mais quand il a été congédié avec les Penguins de Pittsburgh, Michel Therrien, c'est un gars qui était dur avec ses joueurs. Puis quand il tapait, tu sais, quand il décidait que t'étais un clou, là, il allait taper dessus avec le marteau puis il te lâchait pas. On l'a vu faire des remarques dans les médias quand il avait parlé de sa troupe de défenseurs qui essayait de que leur but c'était d'être les pires dans la ligue. Tu sais, il avait pas peur, il mâchait pas ses mots puis il y allait pas mal plus par la peur. Et un moment donné, c'est parce que sur des années puis sur des hauts et des bas d'une saison puis sur la longueur, le nombre de matchs. C'est qu'à un moment donné, le message passe moins. Ça devient éreintant, puis la réponse des joueurs n'est plus la même. C'est juste humain. Fait que quand ils ont amené Dan Bylsma, ben lui, c'était un clown. C'est un gars qui était un ancien joueur, qui était un très bon coéquipier. Pour te donner un exemple, Dan Bylsma, là, c'est le genre de gars pour détendre une atmosphère. Là, moi, je me rappelle, on est à Columbus. Il était assistant coach avec nous, avec les Islanders de New York. C'est le même que je l'ai connu, moi, Dan. Puis, juste avant, on était avant la game. J'étais en train de m'habiller. Là, puis je suis presque rendu aux culottes. Il vient me taper sur l'épaule. Puis il me dit, Bruno, viens me voir quand t'auras pas long. Je vais juste être là, là, en arrière où il y a l'équipement. Ah, pas de trouble. Je m'en vais en arrière. Je finis mon taper mon bâton. Je m'en vais en arrière. Je tourne le coin. Il est tout nu, à l'envers, les pieds à côté du cadre de porte. Fait que je rentre dans la pièce, puis c'est l'image que j'ai. Puis la tête, il part à rire. Moi, je riais un peu dédousselé. Puis il me dit, hey, je voulais juste être sûr que t'étais contract. C'était un gars comme ça. C'était un clown. Et quand il est arrivé à Pittsburgh, tout ce qu'il avait à faire, lui, c'était un bon groupe de joueurs, c'était d'aller chercher l'énergie. C'est ce qu'il a fait. Même affaire avec Saint-Louis, où c'était Mike Yeo qui était un gars très, très, très stratégique, très structuré. Puis il y avait beaucoup de détails dans son jeu. Ils ont été chercher Chief, qui lui est arrivé, puis lui, il a joué au hockey, puis avec la passion, puis de l'intensité. Fait que tu vas chercher ces contrastes-là, puis ça, c'est très, très, très important. Quand tu as un changement d'entraîneur, c'est là que tu vas avoir des résultats. Puis oui, ça vient faire tout un effet dans une chambre.
Comment ça se passe, le congédiement d'un entraîneur? J'imagine que comme joueur, ça a dû t'arriver. Est-ce que vous le textez? Est-ce que vous avez la chance de le recroiser, de lui reparler? Ça se vit comment, ce congédiement-là? Est-ce que Terrien et Vigneault sont embarrés dans leur maison chez eux, roulant en boule? Comment ça marche?
Ben, quand c'est annoncé habituellement, le directeur gérant va se présenter dans la chambre pour venir l'annoncer aux joueurs, là, une fois qu'il l'a fait à l'entraîneur avant que ça soit dans les médias. Tu laisses, dépendamment de chacune des relations, là, je peux te dire que c'est pas tout le monde qui va envoyer un message texte à l'entraîneur. Mais habituellement, c'est quelque chose que tu fais parce que, comme on le voit présentement, le monde du hockey, c'est un petit monde, hein, puis ça revient, puis la chaise musicale des entraîneurs. Fait que tu sais jamais quand est-ce que le gars va redevenir ton entraîneur. Fait que t'es pas mieux garder une bonne relation, selon moi. Mais oui,
à radio, c'est la même affaire, mais ça marche pas tout le temps.
Ah ouais. Tu sais, faut tout le temps, tu gardes une bonne relation, puis tu le vois plus, par exemple, ça se fait tellement rapidement que par le temps que le directeur gérant rentre dans la chambre, l'entraîneur est parti, il n'y a plus de contact, ça se fait, c'est comme enlever un plaster, c'est un pansement, tu sais, il est sorti, fait que tu peux envoyer un message, des fois l'entraîneur va prendre une ou deux journées, puis après ça, te répondre, parce que veux pas, c'est tout un mix d'émotions. T'sais, tu vois, j'ai eu la chance de parler avec Jeremy Colliton quelques jours après son congédiement à Chicago, puis tout le monde va le vivre différemment, mais tu sais, le premier sentiment, surtout quand ça va vraiment mal. Tu sais, quand t'es un peu surpris, c'est différent, mais quand ça va vraiment mal, les choses, le premier sentiment qui me racontait, c'est ça a été comme un relâchement. Comme si tu me sortais de ma souffrance. T'sais, c'était tellement dur, tellement pesant à tous les jours. Fait que là, une fois qu'il est sorti de sa souffrance, ben là, après ça, t'as comme le sentiment, ne veut pas, là, l'entraîneur, c'est un compétiteur, puis il veut réussir, puis il va avoir du succès, puis son objectif, c'était de gagner, puis d'amener cette équipe-là ailleurs, puis là, t'es capable de faire une rétrospective, qu'est-ce qui a pas fonctionné, où ça a bloqué, qu'est-ce que j'ai manqué, puis tu veux t'améliorer, puis c'est un constat d'échec, fait que t'as ce sentiment-là après, fait que c'est sûr que ça prend un certain temps, puis et lui, il veut prendre un bon moment. T'es tellement embarqué, t'es tellement envahi. C'est un mode de vie être entraîneur. C'est pas un boulot, là. T'es là 24 heures sur 24. Mentalement, t'es tout le temps engagé dans ton équipe. Fait que là, de relâcher, là, j'ai besoin de ma dose familiale. J'ai besoin de balancer les choses parce que là, c'était rendu malsain. Fait que ça prend un bon moment avant que un entraîneur puisse reprendre un boulot puis être sain d'esprit. T'sais, moi, quand je vois un entraîneur changer de job et embarquer avec une autre équipe pas longtemps après, là, je pense pas que tu as 100% de cet entraîneur-là parce que mentalement, émotionnellement, c'est très, très, très demandant. Tu as besoin de vivre ce deuil-là.
Oui, ça rejoint exactement ce que tu disais à 6 heures ce matin. Il lui parlait de deuil, de mener un deuil à faire. Et donc, tu dois prendre le temps de le faire. C'était exactement dans la même lignée. Bruno, est-ce que, à ce moment-là, ça veut dire que Bergevin, entre autres, là, puis encore là, je reviens à des propos qu'on a eu plus tôt ce matin. On disait, Ray disait que Claude Julien,
on est en train de replacer ses billes, là.
Tranquillement, mais il a bien pris le temps de décanter tout ça.
Financièrement, donc, ils peuvent se le permettre plus qu'avant, là.
Ouais, avant le coach c'était vraiment le coach c'était toujours le moins bien payé de toute l'organisation dans bien des cas, Bruno.
Ouais, mais c'est nouveau. T'sais, même c'est très récent. Une des choses qui a fait exploser tout ça puis a aidé les entraîneurs, c'est la situation Babcock à Toronto. Puis là c'est devenu médiatisé. C'est un peu ça. Même présentement, Jeff Corton, on lui pose des questions sur son contrat. Il fait juste dire que c'est plusieurs années. Mais t'aides pas personne dans cette situation-là, puis tu sais, c'est tout le temps délicat. Fait que c'est certain que lui négocie directement avec le propriétaire. Les propriétaires vont dire non, t'en parles pas, tu veux garder ça secret comme c'était à l'époque avec les joueurs de hockey. Mais les joueurs, eux autres, ils ont compris qu'en exposant tout ça, ben tu fais juste t'aider à gauche par à droite. Fait que si Gordon avait sorti puis dit gars, moi j'ai signé, je dis n'importe quoi, là, mais j'ai signé 4 ans, puis c'est 2,5 millions par année, mettons. Ben, le gars qui fait 1 million de l'autre côté, qui fait le même travail que lui, et que son équipe a du succès, dit, wow, attends une minute, là, moi, je vais renégocier, tu sais. Ça l'aiderait de ce côté-là, c'est certain. Les entraîneurs l'ont vécu avec Babcock. Puis là, tu vois, de plus en plus, selon l'expérience, selon les succès qu'ils ont eu, ben, il y a des tranches d'entraîneurs qui vont gagner près de ce que Babcock avait. Les Kenville, les Vigneault même, à un certain moment de ce monde, gagnaient des, certains montants dans une autre classe. Fait, tu le vois que ça monte pour les entraîneurs. Fait que oui, ça leur donne ce temps-là d'être capable de... Attends une minute, là, je vais me replacer. J'ai une famille dans tout ça. Il y a d'autres choses. Puis, tu sais, comme Claude Julien, lui, il recommence avec une belle expérience, un tournoi en Europe avec l'équipe canadienne, qui est une belle expérience pour replonger là-dedans. C'est pas très long, c'est pas très demandant. Ça, c'est juste de structurer tes choses un peu. Fait que c'est une belle façon de revenir derrière un banc.
Mais veux pas, moi, je trouve que le plafond salarial, il a comme accentué la pression sur les entraîneurs parce que on n'en voit plus des grosses transactions. Là, mettons la transaction l'Avalanche avec le Canadien, le Patrick qui a été échangé, ça fait 25 ans, c'est une grosse transaction. Tu peux plus faire ça à cause du plafond. Là, si tu veux changer la compote de ton équipe, parce que c'est ça que tu veux faire, là, ça va moins bien. Là, les Flyers ont 8 défaites de suite. Ils ont peut-être essayé d'échanger Giroux, puis nomme-moi 2 autres joueurs en retour d'un ou 2, 3 autres joueurs, mais ça se fait plus, les transactions. À cause du plafond, à cause des clauses de non-échange. Les clauses de non-échange, ils sont tellement, les mains sont attachées pour les dirigeants, fait que il ne reste pas grand-chose à faire là, pour essayer de shaker ton équipe un petit peu. Là. C'est dur. Là.
Ah non, t'as entièrement raison, puis ça te coûte cher. Si tu veux shaker ton équipe, tu vas t'endetter, tu vas racheter des contrats ou tu vas faire des échanges que tu vas garder du salaire du joueur parce que tu veux juste t'en débarrasser le plus possible. Ça te coûte cher. Puis on a même vu des transactions quand il y a des équipes qui ont tenté de libérer que ce soit de la masse, mais ça va te coûter des choix, ça va te coûter des joueurs. Yoel Armia s'est retrouvé ici avec le Canadien parce que c'est le Canadien qui donnait service aux Jets, puis eux autres voulaient se débarrasser d'un contrat. Mais ça va te coûter très, très, très cher de changer ta dynamique de ton équipe. Puis quand tu le fais, comme tu dis, si le directeur gérant dit « Mais non, moi, mon entraîneur fait la bonne chose, je vais embarquer, je vais prendre ce chemin-là », mais tu es en train d'hypothéquer, puis ça va être long avant que tu puisses redonner des outils, puis te redonner une flexibilité. Au lieu de ça, tu dis « Ben, peut-être que si un autre arrive, puis une autre stratégie, ben, peut-être que Giroux va recommencer à jouer de la bonne façon, peut-être que lui va recommencer à jouer de la bonne façon », parce que ça l'avait fonctionné. Tu sais, ça fait 2-3 entraîneurs qui arrivent, puis qui donnent une deuxième vie, puis une troisième vie à Claude Giroux, qui est capable d'être un excellent joueur. Est-ce qu'il est encore capable de jouer à la hauteur du contrat qu'il a présentement? C'est tout le temps la question. C'est pas est-ce que c'est un bon joueur, est-ce que c'est un joueur de la Ligue nationale? Claude Giroux, c'est un gars que tu voudrais dans ton équipe, 100 000 à l'heure, oui. Est-ce que c'est à 8,25, je crois, son contrat? Attends une minute, là.
Dans le game d'hier, là, Giroux a scoré 2 goals, mais il a pogné une punition ridicule.
Il a coûté deux.
Tu pourrais le compliquer. Il a été pourri défensivement, puis l'autre, il a pogné un 2, un peu de paresse, puis ils ont scoré là-dessus. Tu sais, fait que c'est donnant, ça va être difficile. Mais je veux qu'on revienne aux Canadiens. On n'en parle pas souvent du Canadien ensemble, Bruno, puis ça se rendra pas à Montréal. Là, fait que je veux ta vision franche. Est-ce que le Canadien devrait se mettre un peu, on voit ça beaucoup dans le monde du hockey junior majeur, là. Est-ce que le Canadien devait se mettre en mode vente, là, puis on liquide, là? Toffoli, Chiarot, écoute, qui d'autre?
Price,
c'est pas au contrat. Ben, d'après moi, 10 millions, personne de ça, là. Fait que, des goalers, il me semble qu'il y en a beaucoup. Fait que, je sais pas. Toi, est-ce que le Canadien doit se mettre en mode vente puis mettre un X sur la saison? Comme on est, quoi, dernier, avant-dernier, matin, là? Est-ce qu'on devrait mettre un X sur la saison tout de suite puis s'enligner pour dire, là, on va faire une vraie reconstruction, surtout qu'on va avoir un nouveau DG. Ben là, on va prendre la bonne ligne.
Bien. Pour ce qui est de la saison, ben, je le sais, là, mettons, tu me dis, hey, j'ai mis ma blouse là-dessus que le Canadien va faire les séries, je dirais que t'es dans le trou. Parce que oui, tu peux mettre un X en tant que partisan sur une présence en séries éliminatoires, puis je serais assez confiant d'y aller avec ça, mais c'est jamais terminé tant que pas terminé. On l'a vu, les blues, etc., c'est arrivé dans le passé, sauf qu'à l'interne, à l'intérieur, tu peux pas mettre un X sur ta saison. À l'interne, t'es tout le temps en train de bâtir quelque chose. T'as tout le temps une raison pour laquelle jouer. T'as un chandail de la Ligue nationale sur le dos, c'est une opportunité. Fait que les gars à l'intérieur vont continuer de se battre jusqu'à la fin. C'est ça qu'il faut. Pour ce qui est de la vente, au niveau junior, tu peux le faire. Parce que c'est des cycles. Mais au niveau de la Ligue nationale, tu peux pas le faire. Puis c'est ça un peu qu'on parlait un peu plus tôt. Tu peux pas rentrer là-dedans et te dire, bon, ben moi, je recommence. Quand le Canadien, je pense, c'est l'équipe qui a le plus de contrats de 3 ans et plus, qui leur reste 3 ans et plus à travers la Ligue. Fait que c'est une équipe qui avait un noyau bâti solide pour du long terme. Puis là, ça n'a pas cliqué cette année. Dans la Ligue nationale, souvent, tu vas être à un ou deux joueurs de t'écrouler ou à un ou deux joueurs d'avoir du succès. Puis le Canadien est une belle preuve. T'as enlevé un ou deux joueurs en début de saison, puis là, tout s'est mis, ça a fait une spirale vers le fond, puis là, ça a attiré bien des choses, puis là, il y a bien des trucs qui sont tombés sur la tête du Canadien. Fait que quand tu vas revoir ton monde en santé, t'es à une ou deux choses ou un ou deux aspects que tu peux venir chercher, améliorer, donner à ton équipe, puis le développement de certains de ces jeunes-là, tu sais, si tranquillement, avec la saison qui est là, puis l'année prochaine, on voit le rôle de Poehling grandir un peu, on voit Evans qui continue à se développer, on voit peut-être Caulfield qui arrive aux joueurs dynamiques qui pourraient être un peu plus proches, qui continue à se développer. T'as un Caden Goulet qui pourrait s'ajouter. T'as certains éléments qui sont intéressants. Tu peux pas rentrer là-dedans puis mettre la bombe comme tu peux le faire au niveau junior. Ça va te coûter beaucoup trop cher. Tu vas t'hypothéquer puis tu vas te menotter ou même te donner un handicap pour plusieurs années à venir parce que tu as juste voulu faire un espèce de reset. Il y a une façon de venir ajuster, faire des tweaks, comme on appelle des petits changements, un joueur là, un ajout là, puis aller trouver de ces gars-là pour rendre ta formation intéressante. Puis on le voit à travers la Ligue, puis on le voit un peu partout. Il y a des joueurs qui arrivent de l'Europe ou de la KHL, dans ces ligues-là, en Suède, en Finlande, peu importe, puis qui peuvent venir avoir un impact à petit coût. T'as des joueurs sur le contrat d'entrée dans la Ligue nationale. Ça, c'est des éléments tellement importants avec le plafond salarial. Faut que tu ailles chercher ces joueurs-là qui peuvent avoir un impact, mais pas te coûter cher, pour t'aider à te replacer.
Good. Fait qu'on a bien hâte de voir qu'est-ce que ces changements-là apporteront aux différentes équipes. Bruno, en terminant, je voulais juste savoir, as-tu déjà porté le numéro 8?
Oui. Oui.
OK, parce que c'est ça, j'ai vu un extrait, puis j'étais certain que c'était toi, là, à partir derrière ton but, c'était contre les Flyers, partir donc de derrière ton but, puis aller scorer un petit numéro 8 à la défense, ça devait être toi?
Ben oui, c'est moi, c'est ça, ouais, un des plus beaux buts de l'histoire, ben oui, à peu près comme chacun de mes buts, je pense c'était à peu près ça, j'ai joué 8-9 joueurs, puis j'en mettais top 9.
Hey, c'est-tu un exceptionnel, McCarn?
Il y a quelque chose. Puis, tu sais, c'en est un qui est arrivé. Puis, il y a eu son impact. L'Avalanche, eux autres, ont eu leur fenêtre un peu faite différemment parce que c'est un gars qui est arrivé avec un contrat d'entrée. Puis déjà, il y avait un impact de fou dans l'équipe. Puis, ils ont, eux autres, en plus, dans leur équipe, ils ont la plus belle aubaine de la Ligue nationale. Nathan MacKinnon fait juste au-dessus de 6 millions. Nathan MacKinnon fait à peu près 100 000 piastres de plus que Kotkaniemi. Puis, j'ai rien contre Kotkaniemi, tu sais, il fait partie de ma chanson d'entrée, là, à votre émission, mais c'est quand même deux mondes différents. Fait que c'est tout un objet. La fenêtre de l'Avalanche est maintenant. Parce que Makar, oui, tu l'as signé, mais tu vas avoir plein des gars à signer. Puis à un moment donné, l'Avalanche va être obligé justement de laisser aller du monde parce que le plafond salarial va venir faire son ménage là-dedans.
Puis ouais, mais tu sais, les autres, là, en tout cas, moi, je pense qu'ils doivent magasiner un gardien de but.
C'est sa dernière année de contrat, lui.
Ils ont McKinnon, ouais, ça se
non, le gardien, voyons.
Kemper.
Ouais, ils ont Kemper. Là, hier, c'était comment? Tenus?
Anounen. Justus Anounen.
Justus Anounen, j'adore ce gars-là. J'adore son nom. Il est pas bon, mais il a un maudit beau nom. Puis l'autre qu'on cherchait plus tôt ce matin, c'est Francis.
Oui,
Francis. Il manque peut-être un goaler, l'Avalanche, s'ils veulent faire un plus long bout d'un playoff.
Barry Price.
Bon, ouais, oui, comme Barry Price l'a dit.
Non, c'est le Canadien qui garde 3, 4, 5 millions sur le salaire, mais c'est sur plusieurs années, on s'entend. Là, mais...
Ouais, ils vont faire goaler qui?
Ben, celui qui gaule là, là.
Jacques Alain.
Ouais. OK, ben Bruno, je te laisse retourner à tes petites affaires, puis on se reparle la semaine prochaine.
Hey, à bientôt, la gang.
Salut, man. Bruno Gervais, donc notre analyste de hockey. Les changements d'entraîneur, les congédiements, c'est pas toujours...
Le plafond salarial...
ça neutralise.
Ça m'agace.
Ouais.
Ça m'agace.
Hey, des grosses transactions avant, c'est vrai, il y en avait, hein, des gros mouvements. Puis, c'est
parce que les gens qui font comme là l'Avalanche, ils ont quand même bien fait les choses. Il y a plusieurs bons choix, puis ils vont être pénalisés. Les Blackhawks ont été pénalisés il y a de ça 8-9 ans parce qu'ils ne pouvaient plus garder leurs joueurs. Il y avait tout un club de hockey, les Blackhawks.
Ouais, ils avaient gagné cette année deux fois. Oui.
Le Lightning, il réussit à se refaire parce qu'ils repêchent tellement, mais tellement bien, mais ils ne peuvent pas garder tous leurs joueurs.
Ouais. Lightning, l'année passée, ils ont, tu sais, Stamkos, il était sur la liste des blessés toute l'année. Sinon, ça marchait pas. Ah, pas Stamkos.
Chérard.
Tu sais, s'il était dans l'équipe. Ils ont fourré le système vrai, là.
Le système s'est penché pour se faire fourrer, excusez, là, mais il était pas padé.
Bon, c'est pas fou. OK, 9h04.